Vous l'avez peut-être un peu discerné dans les textes, les paroles des chants que nous avons pris, surtout au début. Il parlait de Jésus qui libère. Jésus libère, Jésus délivre. Et c'est un petit peu le sujet que j'aimerais prendre avec vous ce soir. Ouvrez vos Bibles dans Ésaïe, au chapitre 61, s'il vous plaît, verset 1. Ésaïe, chapitre 61, verset 1. Il est dit ceci. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. » On continue dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Jean 8, verset 34. Jésus dit ceci, « en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Amen. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. De quel fils s'agit-il sinon de Jésus ? Jésus est venu dans le monde pour apporter la liberté. Jésus est venu dans le monde pour affranchir les hommes. Tous les hommes sont pécheurs. Il nous est dit dans ce texte que celui qui commet péché est esclave du péché. Alors il y a un verdict qui est là. On est d'origine, l'homme sans Dieu est esclave du péché. Et il est lié. Lié par le péché. Il voudrait bien s'en défaire quelquefois, mais selon l'humeur de sa chair, il commet le péché. Il a beau vouloir résister, mais il continue. J'ai une image, un jour une petite histoire, des hommes avaient fait escale sur une île. Ils étaient marins, ils étaient allés en bateau sur une île, ils avaient quitté le grand navire, pris une petite chaloupe comme ça. Ils étaient allés sur l'île et avaient fêté toute la nuit avec de l'alcool, toutes sortes de choses, ils étaient complètement ivres. Et puis le soir, enfin, au milieu de la nuit, ils ont voulu rentrer au bateau et ils sont remontés dans la chaloupe. Et ils ont commencé à ramer. Et puis, ils ne voyaient toujours pas le bateau s'approcher. Puis, ils ramaient. Puis, l'autre, il dit, rame plus fort, on n'avance pas. Alors, les deux, ils rament. Et puis, épuisés de sommeil, ils s'endorment sur leur bateau. Le lendemain, ils se réveillent après avoir fait passer un peu l'alcool. Et puis ils disent, mais on n'est que là, pourtant on a ramé. Puis ils se retournent, ils avaient oublié d'enlever la corde attachée au port. Ils avaient ramé, mais ils n'étaient pas libérés, délivrés. Ils étaient toujours là, ils sont restés au même point. Et ce qui a mis dans mon cœur cette pensée de partager avec vous ce sujet d'être libéré, d'être délivré du péché, d'être affranchi du pouvoir du péché, c'est parce que bien souvent dans les visites que nous faisons, bien souvent dans les échanges que j'ai avec des personnes même croyantes, même des personnes baptisées de longue date, c'est qu'ils sont épuisés, découragés, parce que dans leur vie, ils n'avancent pas, ils voudraient bien avancer, mais ils n'avancent pas. Un jour, moi, j'ai fait pareil que ces deux hommes, sauf que c'était en scooter et je ne m'étais pas enivré. J'ai voulu avancer, je suis parti, j'avais oublié de détacher l'antivol du poteau. Ça m'a fait un choc. On n'avance pas si on n'est pas libéré, si on n'est pas délivré des choses. Et le seul qui peut nous affranchir du pouvoir du péché, c'est le Seigneur Jésus. On l'a vu. Et ces gens avec qui on a des entretiens me disent, voilà, nous disent, mais ça fait tant d'années que je suis baptisé. Au début, tout allait bien. J'arrivais à ne plus pécher. J'arrivais à me tenir saint pour le Seigneur. Je faisais des expériences. Je faisais toutes sortes de choses. Et puis, petit à petit, les choses sont redescendues. Ma joie s'est atténuée. Mon zèle s'est atténué, s'est baissé. Et je suis comme attaché encore des choses. Il y a quelque chose qui m'empêche de m'élever vers le Seigneur, qui m'empêche d'avancer. Et je continue à pécher, je retombe dans les mêmes choses, je demande pardon et puis je retourne. Et puis ça n'avance pas. Alors, vraiment sur mon cœur, j'ai eu cette pensée. Il faut insister sur oui, Jésus pardonne des péchés. Et toute notre vie, autant de péchés qu'on fera et qu'on lui demandera le pardon, il nous pardonnera. Il est prêt à effacer le péché, il est prêt à oublier le péché. Jésus pardonne, mais Jésus aussi délivre, Jésus libère, Jésus il détache ceux qui sont captifs. Il est dit, j'ai été loin pour annoncer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Et si quelqu'un est dans ce cas ce soir, sachez qu'il y a une solution. Ne perdez pas courage, ne perdez pas espoir. Il y a une solution pour chacun d'entre nous, pour tous. Jésus veut dire « Dieu sauve, le sauveur ». Jésus vient d'un mot hébreu qui dit « sauver » et aussi « délivrer ». Les deux. Le salut, c'est le pardon et la délivrance du pouvoir du péché. Si j'étais pardonné, tout le temps pardonné, mais jamais délivré de mes vices, de mes passions, je vais être découragé. Non, Dieu veut que je vive sans péché. Dieu veut me rendre capable de résister aux tentations, résister au péché, de renoncer aux œuvres mortes, d'être complètement délivré. Oui, dans Galates 5.1, il est dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et beaucoup d'entre nous vivent encore liés par un péché, par la colère, par le mensonge, par une mauvaise habitude, quelque chose qui les tient encore. Oui, on est sauvé, on est affranchi pour la liberté. Et pour trouver la vraie liberté, il y a deux étapes. La première, c'est d'être affranchi. Esclave du péché, pour en être libéré, il faut déjà être affranchi. Il faut annuler le pouvoir du péché. Affranchi. Ce mot est fort. Ne plus être redevable au péché. Être affranchi du péché. Et pour être affranchi du péché, il fallait qu'il y ait mort au péché. Jésus est mort pour nous. Mais nous sommes aussi morts avec Christ. Nous sommes morts avec lui. Dans Jean 8, 31, on va lire 8, 31 et 32, Jésus dit aux Juifs, à des Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Le seul moyen d'être délivré, d'être affranchi du pouvoir du péché, ça commence par la vérité. Le seul moyen d'être délivré, libéré, c'est par la vérité. Et premièrement, affranchi, la vérité, elle vient de la parole de Dieu. La parole est la vérité. Jésus a dit un jour, sanctifie-les par ta vérité, la parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Hébreux 4.12 dit que la parole est une épée plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Vous connaissez ces textes? Vous le connaissez? La parole de Dieu est comme une épée, et plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Cette image qu'il y avait dans le sacrificateur, alors qu'il allait offrir un sacrifice, il prenait une épée, il avait une épée à double tranchant, et il éventrait l'animal. Et toutes les entrailles, tout ce qu'il y avait à l'intérieur sortait et était à nu. Il n'y avait rien de caché. Et la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle peut séparer ce qui vient de l'âme de ce qui vient de l'esprit, ce qui vient des sentiments, des émotions, de l'éducation, de ce qui vient de Dieu, de l'esprit, du Saint-Esprit. La parole de Dieu est capable de faire ça, de libérer, d'ouvrir. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Et quand on lit la parole, quand on entend la parole de Dieu, quand on médite sur la parole, quand on reçoit la parole de Dieu, puisqu'il ne suffit pas de l'entendre ou de la lire, mais surtout de la recevoir, elle est comme un miroir. Et elle nous révèle, elle nous montre ce qui est caché à l'intérieur. Elle nous donne du discernement. Elle est vraie, la parole. Quand elle dit que le menteur ne rentrera pas dans le royaume des cieux, elle met en évidence notre cœur. Et si je suis en train de mentir, elle met en évidence mon péché. Elle me convainc de péché. Le Saint-Esprit me convainc de péché par sa parole, puisque la parole est l'épée de l'Esprit. La parole de Dieu annonce la vérité, met en évidence, révèle, convainc. Mais si ça reste là, j'ai beau être convaincu, si je ne mets pas en pratique, ça ne va pas aller plus loin. Il est dit dans un texte que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli son effet. Et souvent, on croit que la parole de Dieu, elle va faire quelque chose d'elle-même. Elle va produire quelque chose de visible, une œuvre. Ce n'est pas ça. La parole de Dieu, elle convainc, elle indique, elle dirige, elle éclaire. À nous, après, d'agir en conséquence et de marcher dans la lumière, par exemple. La parole est là pour mettre en évidence. La vérité, lorsque je l'entends, elle met en évidence les choses mauvaises. Elle est comme un miroir et elle me montre comment je suis. Quand je sonde les Écritures, elles me montrent si je suis saint ou si je suis souillé. C'est pour ça que les gens n'aiment pas lire la Bible. C'est pour ça que votre corps, il va vouloir s'endormir quand vous ouvrez la Bible avant d'aller au lit. C'est pour ça que le matin, vous allez vous trouver pressé, j'ai pas le temps de lire la Bible. Parce que votre corps, votre chair, La chair, elle n'aime pas ce qui vient de Dieu. Et quand vous ouvrez la parole de Dieu, aïe, un coup de téléphone. Je préfère répondre au téléphone, c'est urgent peut-être. Quand vous ouvrez la parole de Dieu, il y a un tuyau qui casse. Vous avez déjà remarqué ? Même le diable, il n'est pas d'accord que vous ouvriez la parole de Dieu. Le moment où vous dites, allez, je vais éteindre mon portable, je vais couper toute communication avec le monde extérieur pour passer du temps devant Dieu, il arrive quelque chose dans la maison. Avec Stéphanie, des fois, on voudrait passer un peu de temps, je ne sais pas, soit se reposer, des fois, c'est faire une sieste. D'autres fois, c'est simplement, on voudrait lire la Bible, on voudrait prier, les enfants sont à la sieste, au moment où on ouvre, d'habitude, ils dorment tout le temps. Au moment où on ouvre, ouah, allez hop, faut aller chercher le bébé. Et puis quand il est là, c'est plus aussi évident. Il demande là, il demande si, à manger, etc. Il faut le changer. Vous savez, on se fait vite prendre par les choses de la vie. Le diable utilise les choses de la vie pour nous empêcher d'ouvrir la parole de Dieu. Car elle est un miroir, elle est la vérité qui peut, si on la met en pratique, nous délivrer, nous affranchir. La parole, elle nous montre, elle nous avertit, elle nous enseigne, elle nous guide. Après, à nous d'agir en conséquence. Et la réponse qu'on doit faire pour être affranchi du péché, c'est confesser son péché. Nous aussi, on doit dire la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Mais moi, je dois dire la vérité à Dieu. Je dois avoir un cœur honnête. Je dois être sincère devant Dieu lorsque je m'approche de lui. Quelquefois, c'est encore plus radical. Je n'ai pas de communion avec Dieu. Je ne prie jamais avec Dieu. Je lis jamais avec Dieu. Ça, c'est encore plus radical. Et là, c'est sûr qu'on ne va pas être affranchi. Mais même des fois, on s'approche de Dieu et on n'est pas sincère. On prie pour un tel. On prie pour un tel. On bénit le Seigneur, tu es bon envers moi, etc. Mais pendant qu'on prie, le Saint-Esprit nous met le doigt sur quelque chose, nous rappelle un péché, quelque chose qu'on a à régler. Et nous, on pense à autre chose, on dit non, je vais faire autre chose. Deuxième chose qu'on doit faire, c'est nous-mêmes être vrais devant Dieu, confesser son péché. Souvent, et j'ai remarqué que c'est un de mes défauts aussi, quand on annonce l'Évangile, que ce soit le jeudi après-midi, jeudi soir, ou d'autres moments où on partage simplement l'Évangile, eh bien, on dit aux gens, dites que vous êtes pécheurs, confessez votre péché. En quelque sorte, admettez que vous êtes pécheurs. J'ai regardé tous les textes où il est parlé de confession dans la Bible. Il est dit, confessez vos péchés. Il n'est pas dit, confessez votre état de pécheur. Vous comprenez la nuance ? Souvent, on dit, on vient vers le Seigneur, je reçois ton pardon. Merci Seigneur, mais on n'a rien confessé du tout. Ou alors on a dit, je reconnais que je suis pécheur, et ça s'arrête là. Je crois que si on veut véritablement être affranchi, que des liens soient coupés, il faut dire à Dieu, confesser à Dieu son péché, au fur et à mesure qu'il nous le montre et qu'il nous le révèle. Vous allez dire que ça paraît être une nuance, mais je crois que quand je dis à Dieu, Seigneur, j'ai un problème avec le mensonge, déjà ça paraît plus honnête devant Dieu, plutôt que dire, Seigneur, je suis pécheur, lave-moi. Ça reste très vague. Seigneur, je suis alcoolique, je m'enivre et ça me plaît, j'arrive pas à m'en défaire. Je suis peut-être pas alcoolique, mais je m'enivre, juste ça. Je prends plaisir à rigoler, à boire pour rire, pour être bien. Dans une soirée, je peux pas m'empêcher de boire. Seigneur, j'ai un problème avec l'alcool, délivre-moi. Confessez son péché, confessez vos péchés. Pas seulement votre état de pécheur. Confessez vos péchés. Dans Proverbe 28, verset 13, il est écrit ceci, je vous le cite, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Merci Seigneur. Deuxième chose, deuxième étape, la vérité que je reçois par la parole, la vérité que je confesse, Jésus est Seigneur, confessez ça aussi, que le Seigneur, que Jésus est Seigneur. Il y a aussi la deuxième étape. Une fois que j'ai été affranchi, il faut que je reste libre. Sinon, je vais retourner esclave, redevenir esclave. Je suis affranchi du moment où je confesse mon péché à Dieu. Je lui demande pardon et que j'y renonce sincèrement. Lui me rend capable d'y résister. Et la plupart d'entre nous, on en est arrivé là. Un jour, on a demandé pardon pour nos péchés à Dieu, on a confessé nos péchés, peut-être on a dit, Seigneur, j'ai un problème, j'ai fait ça dans ma vie. Aide-moi à ne plus le refaire. Pardon, Seigneur, lave-moi de mes péchés. Je crois que ton sang peut me laver, me purifier de mes péchés. On en est peut-être arrivé là. Mais au bout de quelques temps, au bout de quelques semaines, quelques jours peut-être, l'émotion redescend. L'émotion redescend. Je me souviens de beaucoup de camps que j'ai faits. dans ma vie. Et à chaque fois, j'étais touché par le Seigneur. Je vivais des belles expériences. On vivait des guérisons, on vivait des toutes sortes de choses. Et au bout de quelques semaines, quand je retournais à l'école, l'émotion redescendait. En soi, une émotion, c'est pas mauvais. Hein. Faut simplement pas qu'elle me dirige. Mais quand l'émotion redescendait, petit à petit, je me relaissais prisonnier. Je redevenais prisonnier de certaines choses qui me liaient. Je retombais dans certains péchés. Et j'ai appris quelque chose, c'est que pour rester libre, pour continuer à vivre la liberté que Dieu veut me donner, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il me faut cet esprit de vérité. C'est toujours la vérité qui affranchit, qui libère. Mais il me faut l'esprit de vérité en moi pour pouvoir demeurer libre. Il me faut chercher la présence de Dieu. Il me faut chercher une communion réelle avec Dieu. Il est dit dans Jean 16, 13, quand le Consolateur sera venu, c'est Jésus qui parle, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ce n'est plus entrer, recevoir, être convaincu d'une vérité quelconque, ou même confesser une vérité. Il est dit d'être conduit dans toute la vérité, aller plus loin, une route, une marche avec Dieu, une marche dans la vérité, donc une marche dans la liberté, libre du péché, assez fort, fortifié par le Seigneur pour pouvoir résister au péché et être enfin heureux. Parce que je crois que quand on est chrétien et pas heureux, c'est parce qu'au fond, on n'est pas libre. Il reste toujours des choses qui ne sont pas réglées. Ou alors, il reste toujours des choses qui nous embêtent, qui nous gênent dans notre marche, comme un boulet qu'on tire. Et du coup, on ne vit pas le repos de Dieu, mais au contraire, on est fatigué. Fatigué parce que notre conscience n'est pas pure devant Dieu. La marche avec Dieu devient pesante, alourdissante. Et Dieu ne veut pas ça. Il veut nous voir libres, il veut nous voir marcher d'un pas zélé, d'un pas assuré pour lui, avec lui. Alors quoi faire pour rester libre? Il nous faut le Saint-Esprit qui coule en nous, l'Esprit de vérité, l'Esprit du Seigneur qui coule en nous. Or le Seigneur, c'est l'Esprit, dit la parole. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. On veut la liberté, qui veut vraiment être libre de tout péché, arriver à résister au péché et à se préoccuper plutôt des choses du Seigneur? Qui veut être libre pour louer le dimanche matin sans culpabiliser parce que dans la semaine, au travail, à la maison, à l'école, il a fait toutes sortes de mauvaises choses. Et il attend avec impatience le dimanche matin la Sainte-Seine pour régler ses affaires avec le Seigneur. Si je vous le dis, c'est pas avec accusation, c'est parce que moi je l'ai vécu comme ça. C'est peut-être pas le cas de 90%. Ce soir, mais peut-être que ce soir Dieu veut parler aux 10% restants, ceux qui étaient comme moi, ceux qui sont comme moi j'étais. Pareil, dans ma vie j'ai eu un moment, vraiment une longue période, où le dimanche matin, j'hésitais, je prends la Sainte-Seine, je ne la prends pas, j'étais dans un combat, et je la prenais puisqu'il est dit de la prendre quand même, alors je la prenais, mais je réglais, et dans ma tête je repassais toutes les choses que j'avais fait dans la semaine, et je demandais pardon. Et quand la Sainte-Seine avait de la valeur, non pas pour ce qu'elle est vraiment, mais simplement parce que c'était le moment où je réglais un peu les choses avec Dieu. J'avais négligé la présence de Dieu, j'arrivais pas à ouvrir la Bible, j'arrivais pas à passer du temps avec Dieu, et j'étais là dans la culpabilité. Un poids, j'étais pas libre. Même si je m'étais fait baptiser, même si j'avais demandé pardon à Dieu pour mes péchés, même si encore je demandais pardon, je ne vivais pas la liberté que Dieu voulait que je vive. Je n'étais pas rempli du Saint-Esprit. Je parle pas que du baptême dans le Saint-Esprit. Je parle surtout d'être renouvelé constamment dans le Saint-Esprit et du Saint-Esprit. Vive cette vie de l'Esprit, vive cette communion avec Dieu, cette présence de Dieu constante dans mon cœur. Être lié avec Dieu, communier avec notre Seigneur constamment. J'espère que je ne vous parle pas de quelque chose que vous ne comprenez pas ou que vous ne vivez pas. Et si c'était le cas, que vous ne le viviez pas, alors que ça vous encourage à chercher plus auprès du Seigneur. Une communion avec lui, un échange, une vie, une réconciliation continuelle avec le Seigneur. Dans le jardin d'Éden, le Seigneur avait rendez-vous tous les jours avec ses enfants, avec Adam et Ève. Le péché a séparé ça, mais ça a été renoué, réinstauré avec la mort de Jésus à la croix. On peut avoir un échange, une vie, une communion avec Dieu, une communion avec lui. Comment est-ce que je peux avoir la vie du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en moi? Comment le Saint-Esprit peut couler à l'intérieur de moi, dans mon cœur? Quand j'ai demandé et posé cette question, quand je me suis posé cette question, j'ai repensé encore. Ça fait un moment que ce texte me travaille. Vous allez le lire avec moi dans Jean chapitre 15, s'il vous plaît. Jean 15, versets 1 à 8.
Je suis le cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous annonçais. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut lui-même porter le fruit. Il ne demeure attaché au cep, ainsi que vous ne le pourrez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et qui en je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme un sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.
Encore le dernier, je le lis. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Vous avez vu ce texte ? Jésus parle et il dit quoi ? Je suis le cep. Qui est le vigneron ? Pardon ? C'est le Père. Jésus dit, je suis le cep. Et mon Père est le vigneron et les sarments. Verset 5. C'est nous. Et à qui il parlait ? Puisque, à qui parlait Jésus ? À ses disciples. C'est-à-dire que les sarments, c'est ses disciples. Les disciples, ce sont ceux qui sont à l'école du Maître. On est d'accord ? Jésus dit, je suis le vrai cep. Vous êtes les sarments. Mon Père est le vigneron. Et dans cette affaire, il dit, celui qui demeure en moi, je demeurerai en lui. Et il portera beaucoup de fruits. Dites-moi un petit peu, qu'est-ce que c'est qu'un cep ? C'est un pied de vigne. Ok. Si je vous décrivais, je faisais une image d'un cep ou d'un pied de vigne, dites-moi, montrez-moi le cep, expliquez-moi, le cep c'est quoi ? La source, la base ?
Les racines.
Eh bien en fait, le cep, c'est tout. C'est pas que le tronc. Le cep, c'est tout l'ensemble, les sarments compris. Vous avez compris ? C'est-à-dire que on fait partie du cep. Ça va ? Vous écoutez bien. Jésus, c'est le cep, c'est l'ensemble. Il est la tête, il est le corps. Mais nous, on n'est que le corps. Chacun des membres. Nous, on n'est qu'un sarment. Mais Jésus, c'est l'ensemble, le tronc et les sarments aussi. D'accord ? Ça veut dire que lorsque je vois mon frère, il est un sarment. Mais je vois aussi en lui Jésus. C'est une partie du cep. C'est pas vrai ? L'église que nous formons, c'est Jésus. Je ne peux pas critiquer Jésus quand même. Donc je ne peux pas critiquer mes frères et mes sœurs. Je ne peux pas, ne vouloir dire « je m'attache qu'à Jésus, donc je m'attache qu'au tronc. Moi, Jésus, ça me suffit, je ne veux pas de l'Église. » Ce n'est pas possible. Demeurer attaché au cep, demeurer en Jésus, c'est demeurer uni à l'assemblée de ceux qui croient. C'était une petite parenthèse. Comment le sarment porte du fruit ? Qu'est-ce qui coule en lui ? La sève. Donc, dans cette image, le Saint-Esprit, c'est la sève. La vie qui coule dans tout le cep. C'est la sève. Et la vie qui coule dans tout le corps de Christ, celui qui communique, celui qui vit en nous, c'est Jésus, par son esprit. C'est l'esprit de Dieu qui communique la vie en nous. J'aime bien cette image, j'ai lu ce texte, parce que dans cette image, celui qui est un peu discret, il est là, on n'en parle même pas de lui, c'est le Saint-Esprit. Pourtant, combien il est important. Enlever au cep sa sève, il sèche, et on brûlerait tout le cep. On brûlerait tout. Alors le Seigneur, il passe dans la vigne. Dieu, je parle de Dieu le Père. Il passe dans la vigne. Et il voit, il dit alors, voilà, est-ce qu'il porte du fruit? On pourrait prendre Galates 5, 22. Alors, chez lui, on voit de l'amour. Oui, il aime. La paix, oui, elle est en paix. Oui, on voit qu'elle est en paix, elle ne s'inquiète pas, etc. Et puis ainsi de suite, on pourrait prendre tous les enfants de Dieu, hein, que nous sommes. Et puis on dirait, voilà, lui, est-ce qu'il porte du fruit? Ah oui, lui, il porte du fruit. Et il viendrait à Jérémie. Moi. Et dirait, oula, Jérémie, est-ce qu'il est patient? Oula, non. Lui, patience zéro. Et puis divers fruits, comme vous voyez, qui sont énoncés. Et puis dirait Jérémie, non, rien du tout. J'en ai parlé à l'instruction au baptême, alors il rigole. Et puis voilà, il dirait Jérémie, je l'enlève, je le coupe. Je le coupe. Et pourtant, si on porte du fruit, il nous garde. Mais il nous émonde quand même. Malheureusement, on est tous appelés à être un peu coupés ou taillés. Hein. Mais il y en a certains qui sont retranchés, d'autres juste émondés. Tout ça pour dire quoi? Comment recevoir la vie? Comment recevoir le Saint-Esprit, cette sève en nous? Comment le Saint-Esprit peut couler dans nos cœurs? Le seul moyen, c'est de rester attaché à Christ. Rester attaché au rendez-vous de l'Assemblée, puisque c'est Christ aussi. Rester attaché à sa parole, puisque Jésus était la parole faite chair. Rester attaché à la prière, puisque Jésus lui-même a été un homme de prière. Et le seul moyen de communier avec lui, c'est par la prière. Rester attaché à lui. Et il utilise ce mot « demeurer ». Demeurer. Dans « demeurer », moi, je ne sais pas si vous voyez pareil, il y a « persister ». Persévérer, demeurer. Il y a une notion de persévérance. Nous-mêmes, nous devons, pour recevoir le Saint-Esprit, demeurer. Rester attaché à sa parole. Continuer, persévérer à lire la parole. Toutes ces choses que nous avons citées. Et il y a aussi un autre mot qui me revient en esprit. Quand je vous dis demeure, demeurer, j'entends le mot demeure, habitation, habiter. Quand je demeure chez quelqu'un, c'est j'habite chez lui. On est bien d'accord. Eh bien, je crois pour moi qu'il nous faut habiter dans la présence de Dieu. Pour être rempli du Saint-Esprit, il nous faut chercher la face de Dieu. Souvent, il y a un texte qui nous dit voilà, qu'il faut s'entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques. Monsieur Olé, il y a 2 semaines ou 3, nous a dit, voilà, ce texte est mal traduit. Et nous devons de vous le dire. Parce que quand on le lit, on croirait que pour être rempli du Saint-Esprit, il faut louer Dieu. Monsieur Olé nous a appris, avec les textes grecs, que ça n'avait rien à voir. Qu'il faut être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir louer Dieu. C'était comme ça que ça marchait. Alors comment être rempli du Saint-Esprit? C'est pas en louant Dieu, c'est pas en faisant toutes sortes de choses. Comment être rempli du Saint-Esprit? Eh bien, simplement en cherchant la face de Dieu, en cherchant à communier avec lui. Dernièrement, j'étais avec une sœur. On était chez elle. Puis elle me dit, ça va pas, j'avance pas, je retombe dans les mêmes choses, etc. Je lui dis, il faut le Saint-Esprit pour être libéré, pour être réellement libre. Il faut la communion du Saint-Esprit. Moi, je crois qu'il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Elle m'a dit, mais comment faire? Ça fait 2 ans que je demande. J'ai dit, ça fait 2 ans et demi. Moi, j'ai attendu 2 ans et demi. Donc, tu as 6 mois d'avance. Ah bon? Et je dis, viens, on va le demander. Puis pendant 1 heure, on a prié. Puis après, toute seule, elle a continué parce qu'on n'a pas besoin de quiconque pour être rempli du Saint-Esprit, pour faire déjà une première expérience, pour être baptisé dans le Saint-Esprit. Parler en langue ou pas? Je ne veux pas m'étendre sur le sujet. Mais je crois que pour être baptisé dans le Saint-Esprit, faire cette expérience, ça s'est vu quand ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Je crois que ça se voit. Je ne peux pas dire je suis baptisé dans le Saint-Esprit sans qu'il y ait quelque chose qui se voit. Un changement. Un moment dans notre vie où on fait une expérience particulière. Ça, je le crois. Et on voit que pour être baptisé dans le Saint-Esprit, il faut simplement le demander au Seigneur. Il a dit, vous qui êtes des mauvais comme vous êtes, parents, il dit, ben alors, si mauvais comme vous êtes, vous arrivez à donner de bonnes choses à vos enfants, combien Dieu, lui, qui est bien meilleur que nous, ne donnera pas aussi le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Demandez le Saint-Esprit. Est-ce qu'on le demande? Est-ce qu'on le cherche? Est-ce qu'on demande au Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit? Et nous qui avons été baptisés dans le Saint-Esprit, est-ce qu'on demande au Seigneur de nous renouveler dans le Saint-Esprit? Il n'y a que comme ça, en étant plein du Saint-Esprit, qu'on va être libre, libéré du péché, affranchi du pouvoir du péché, dans la longueur, dans le temps. Être rempli du Saint-Esprit. Et comment être rempli du Saint-Esprit? Il y a une autre condition, celle de vouloir devenir serviteur, de vouloir devenir un témoin. Celui qui veut être rempli du Saint-Esprit juste pour parler en langue, il risque d'attendre. Celui qui veut être rempli du Saint-Esprit simplement bien pour faire comme les autres, il risque d'attendre. Par contre, celui qui réalise qu'il a besoin du Saint-Esprit pour être vraiment capable de résister au diable parce qu'il se sera soumis à Dieu, celui qui réalise qu'il a besoin du Saint-Esprit pour servir Dieu, alors celui-là va le recevoir. J'ai jamais vu Dieu qui refuse quelque chose à son enfant si c'est pour semer et le servir efficacement. Dieu le donne, mais il faut chercher le Seigneur, chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu. Serviteur, vouloir être un serviteur. Dans la parole de Dieu, c'est le mot doulos qui veut dire esclave. Donc pour être libre, libre du péché, ne plus être esclave du péché, il faut devenir esclave de Christ. Et bien souvent, on retourne dans l'esclavage du péché, on retourne lié par certains péchés, parce qu'on ne devient pas l'esclave du Seigneur Jésus. On veut bien du salut, on veut bien de la liberté, on veut bien du pardon des péchés, mais on refuse de servir le Maître et de devenir son esclave. Un esclave, quand on lui dit quelque chose, il le fait. Un esclave, il est là. Il se rend disponible pour son maître. Je partage ça avec vous. Pourquoi peut-être, et moi j'ai réalisé ça, pourquoi je n'arrivais pas à me dépêtrer de pécher de certaines choses? Parce que je refusais de servir Dieu comme il demandait et comme il le voulait. Le salut, je l'avais. Je ne peux pas dire autre chose. Je l'avais, le salut. Dieu continuait à me pardonner. Mais j'étais pas heureux. J'étais pas épanoui dans ma vie chrétienne. Pourtant, c'est ça que Dieu nous propose, le repos. Le repos, quel divin repos, dit ce chant. Pourquoi beaucoup d'entre nous ne vivent pas le repos du Seigneur, ne vivent pas la joie du salut, ne vivent pas la paix que Jésus donne? Parce qu'ils ne veulent pas être les esclaves du Seigneur. Du coup, ils retournent esclaves du péché. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit, pardon Seigneur, me voici, prêt à te servir. Et là, une paix est venue, une joie est venue. J'ai su vraiment que j'avais plus à craindre n'importe quelle tentation, parce que Dieu serait toujours là avec moi pour m'en délivrer. Le Saint-Esprit serait toujours là pour me donner du discernement et m'aider. Quelquefois, je faute, je ne dis pas que je pêche plus, je serais un menteur. Qui pourrait le dire ici? Mais je n'ai plus cette peur d'être lié par un péché, vous savez, quelque chose qui m'empêche d'être épanoui, d'être heureux, de rendre un culte au Seigneur avec la liberté dans mon cœur, à l'intérieur. La liberté que Jésus donne, ce n'est pas de sauter, de danser, de faire toutes sortes de choses. La vraie liberté, c'est celle de résister, de renoncer au péché pour pouvoir l'adorer et le servir comme il se doit. J'espère que je n'ai pas été trop long et simplement que ça va vous encourager à croire qu'il y a vraiment une liberté dans le Seigneur, une liberté incroyable. Une joie, une paix qui se vit. Si ça fait des années que vous luttez, arrêtez de lutter. Arrêtez. Cherchez la présence de Dieu, tout simplement. Cherchez la communion avec Dieu, tout simplement. Si la parole de Dieu vous rappelle un péché ou vous montre un péché, si le Saint-Esprit vous convainc de pécher sur quelque chose, confessez votre péché. Dites au Seigneur, voilà, j'ai telle chose. Je viens devant le trône de la grâce. Tu as ouvert mon cœur avec ton épée. Tout est sorti et voilà. Maintenant, purifie-moi, lave-moi par ton sang. Amen. Gloire à toi, Seigneur, pour ta parole. Ces moments, Seigneur, me sont chers. Non pas parce qu'ils sont faciles, non pas parce qu'ils sont agréables à entendre, Seigneur, mais parce qu'ils m'encouragent et ils m'emmènent toujours plus près de toi. Mais parce que, Seigneur, ils me donnent du discernement, ils me donnent d'aller plus loin, de vivre toujours plus pour toi et d'être toujours plus épanoui pour toi. En voyant mes frères et mes sœurs, je suis encouragé parce que je vois qu'encore aujourd'hui, tu sauves le monde. tu agis, tu pardonnes, Seigneur. Et je crois qu'aussi tu libères. Fais qu'à Sainte-Anne, nous soyons un peuple libéré. Non seulement pardonné, mais libre, Seigneur, du pouvoir du péché. Plus esclave, Seigneur, de nos passions, de notre humeur, Seigneur. Mais libre de te servir. Libre de tout péché, s'il te plaît, Seigneur. Agis dans nos cœurs pendant ces moments qui vont suivre, dans notre intimité, Seigneur, dans la voiture, dans la maison, lorsque nous fermerons les yeux, lorsque nous ouvrirons peut-être ta parole. Rappelle-nous ces paroles et montre-nous qu'il y a plus toujours avec toi, plus fort et plus loin. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen.